Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Marianne Paquette pour vous accompagner au cours des prochaines minutes. Hier, avec le psychologue Déo Gracias Baguilichian, on a abordé les nombreux défis que peuvent rencontrer les nouveaux arrivants en matière de santé, notamment en matière de santé mentale. Aujourd'hui, on poursuit cette discussion, cette réflexion avec Marianne Lefebvre. Elle est nutritionniste spécialisée en nutrition internationale, parce que, bon, on n'y pense pas nécessairement d'entrée de jeu, mais bien s'alimenter, s'alimenter sainement, c'est pour les personnes immigrantes un grand défi. Notamment, on peut juste y penser, hein, ces personnes viennent souvent de pays où les fruits, les légumes sont très accessibles, peu chers. Ils arrivent ici, le fast-food devient plus accessible, moins dispendieux. On poursuivra cette discussion avec Marianne Lefebvre qui pourra nous donner quelques indices. Également, je ravive un souvenir chez vous. Je vous ramène en 2014, Jeux de Sochi, Alexandre Bilodeau, Canadien, champion olympique de ski de bosse, vient de remporter l'or. Et la première personne qu'il veut voir, c'est son grand frère handicapé, atteint de paralysie cérébrale. Et il le dit haut et fort, c'est sa principale source d'inspiration. Et c'est une preuve que vivre auprès d'un frère, d'une sœur handicapée, ben ça peut représenter une grande richesse pour les membres d'une famille, une source de dépassement, d'inspiration. Mais c'est pas toujours facile. Et en deuxième partie d'émission, il y aura avec nous Dr Georges Beauséjour, psychologue, chef professionnel du service de psychologie du CHU Sainte-Justine, pour nous en parler davantage. Mais pour le moment, discussion avec Marianne Lefebvre. Marianne Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste spécialisée en nutrition internationale, présidente d'Intégration Nutrition, qui offre des services d'éducation nutritionnelle. Tout ça vise à aider des nouveaux arrivants à s'intégrer à l'espace alimentaire québécois, parce qu'il y a de nombreux défis, je le disais lors de l'introduction, ne serait-ce que l'offre alimentaire n'est pas la même. Bon, savoir qu'est-ce que l'on fait avec tel fruit, tel légume? On n'y pense pas, nous, mais ça représente un premier défi pour ces nouveaux arrivants-là.
Oui, en effet, souvent les gens ne le savent pas, mais c'est vraiment important de ne pas sous-estimer tous les défis qu'il y a en matière d'alimentation lorsque on émigre dans un nouveau pays. Ici, par exemple, c'est vrai que l'abondance d'aliments est souvent un défi de taille. Quand on est habitué de vivre dans un pays où est-ce que, par exemple, l'offre alimentaire est beaucoup moins variée qu'ici lorsqu'on arrive dans des supermarchés, où est-ce qu'on a, par exemple, le choix entre 20, 25 sortes de céréales, de barres tendres, des choses comme ça, ça peut être très difficile de faire des choix santé.
Oui. Et en même temps, je le disais, ici, c'est un peu ironique, mais dans bien des cas, le fast-food est moins cher que de la nourriture dite santé, légumes, fruits. Ça aussi, là, ça peut soudainement bouleverser les habitudes alimentaires.
Oui, totalement. Surtout la première année, les immigrants arrivent ici, ils ont des économies. Par contre, les économies s'épuisent très rapidement, donc ils doivent souvent gérer avec un budget pour la nourriture assez restreint. Puis, on peut penser que, en fait, le fast-food, la malbouffe, est assez répandu un peu partout dans le monde. Par contre, c'est souvent la nourriture qui coûte le plus cher. Donc, les gens ne se le permettent pas, même s'ils la voient, en fait, à tous les jours. Lorsqu'ils arrivent ici, c'est vraiment le contraire. Les aliments de base, que ce soit les produits laitiers, les fruits, les légumes, la viande, le poisson surtout, ce sont les aliments qui coûtent le plus cher. Donc, effectivement, dans certains cas, les immigrants vont se retourner vers des aliments à très faible valeur nutritive, mais qui coûte très peu cher.
Oui. En quoi la façon de cuisiner peut être différente?
Bien, en fait, d'abord, les commodités dans une cuisine, pour c'est sûr, tout dépendant, là, les gens viennent d'où, mais dans certains pays, les gens vont être habitués, par exemple, de cuisiner avec des briquettes de charbon de bois, des choses comme ça. Il y a des pays qui n'ont pas l'électricité, donc c'est sûr que d'arriver avec une cuisinière électrique dans un premier temps, ça peut être une difficulté juste de savoir comment ça fonctionne. Puis aussi, quand on parle de tout ce qui est conservation, donc dans plein de pays qui n'ont pas du tout de réfrigérateur, de congélateur, donc ça aussi, c'est quelque chose à apprivoiser, que ça soit de cuisiner des légumes surgelés, par exemple, ça ne se cuisine pas du tout comme des légumes frais. Même chose pour les légumes en conserve.
Oui. Marianne, ça doit être tout un défi parce que, bon, vos clients sont des gens, oui, d'une part, qui viennent d'ailleurs, mais des adultes, des gens qui ont cuisiné, qui ont nourri leurs enfants dans leur pays. Ils arrivent ici et dans certains cas, les connaissances, ben, retombent à zéro. Comment vous les approchez? On ne peut pas les prendre comme des enfants, ce sont des adultes.
Tout d'abord, moi, je tiens à mentionner que les connaissances en alimentation, en santé, en nutrition sont pas à zéro. Parce que, en général, la majorité des immigrants qui arrivent ici ont d'excellentes habitudes alimentaires. Dans plusieurs pays, on a juste à penser aux légumineuses. Les légumineuses sont au centre, dans les mets nationaux de plein de pays, chose qu'on a moins ici. Si on vient d'un pays chaud, d'un pays tropical, les gens vont avoir l'habitude de manger beaucoup de fruits et de légumes. Puis aussi, beaucoup moins de produits de mets pré-préparés qu'au Canada, par exemple. Donc, chez certaines personnes, chez certains immigrants, les connaissances en matière d'alimentation sont quand même assez bonnes. La difficulté est plus au niveau de l'adaptation. Ces bonnes habitudes-là, qui étaient bonnes dans leur pays d'origine ne sont pas rendues mauvaises ici. Par contre, le mode de vie change. Donc, souvent, en fait, ce qui se produit, c'est que les gens sont beaucoup plus sédentaires ici. C'est sûr que on pense à l'hiver. L'hiver, 4 mois par année, les gens sont beaucoup moins actifs, en fait, que l'été. Donc, ça, c'est une problématique. Je vous dirais que la problématique aussi au niveau de la connaissance de la santé est plus l'association avec l'alimentation et les maladies. Souvent, les gens ne connaissent pas très bien, par exemple, les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires qu'on a beaucoup en Amérique du Nord. C'est pas d'emblée en lien, par exemple, le diabète avec l'alimentation ou le cholestérol élevé avec l'alimentation. Je dirais que la problématique est plus à ce niveau-là.
Oui. Et peut-être également qu'ici, les campagnes de sensibilisation sont présentes, du moins de plus en plus présentes, et c'est pas le cas partout dans le monde. Donc, il y a aussi cet apprentissage-là à faire tranquillement. Je pense aussi à tout ce qui est l'achat, le marché, l'épicerie. Ça ne se fait pas ailleurs comme ici au Canada.
Non, ça aussi, c'est l'approvisionnement alimentaire, c'est une difficulté qui revient assez couramment dans de nombreux pays où les conservations, par exemple, vont être différentes, que je pense, par exemple, qui n'ont pas de réfrigérateur ni de congélateur. Les gens ont l'habitude d'aller au marché à tous les jours pour préparer le repas de la journée, puisqu'ils ne peuvent pas conserver. Ici, en fait, il y a de nombreuses études qui montrent que plus on va souvent dans un supermarché, plus notre facture hebdomadaire augmente. Donc, on a l'habitude plus d'aller une fois par semaine, une fois par deux semaines. Parfois, les gens ont beaucoup de difficultés à faire la gestion, tu sais, d'aller à l'épicerie pour, par exemple, préparer 21 repas pour la semaine. Tu sais.
Oui. Il y a aussi le côté de marchander sa nourriture. Ici, d'aller voir le poissonnier puis de lui demander de nous faire le poisson à tel ou tel prix, bien, ça ne fonctionne pas.
Oui, ça c'est sûr et certain. On peut le faire, tu sais, chez certains producteurs locaux, dans les marchés publics, à l'occasion. Mais en effet, ça aussi, des fois, les gens, quand on vient d'un pays où est-ce que la négociation des denrées alimentaires est quelque chose qu'on fait de façon quotidienne, ici, c'est sûr qu'on peut pas négocier là, notre prix quand on va dans un grand supermarché, par exemple. Puis effectivement, certains ne le savent pas toujours.
Oui. Marianne, comment on peut faire de la prévention auprès de ces familles nouvellement arrivées au pays afin de les sensibiliser à la corrélation entre santé et alimentation?
Bien, dans un premier temps, c'est sûr que c'est important d'être vraiment ouvert, de se rappeler que ce soit dans les habitudes de vie comme dans les habitudes alimentaires, il y a des bons et des moins bons côtés dans toutes les cultures. Donc, de trouver, je vous dirais, le meilleur des deux mondes dans l'alimentation, donc autant dans la société des gens d'où qui viennent que dans leur société d'accueil, c'est un bon premier pas. Je voudrais également faire de la prévention au niveau du régime nord-américain. Il y a certaines cultures qui vont idéaliser énormément le régime alimentaire nord-américain, alors qu'on sait qu'il parfois il est riche en matières grasses, en sucre ajouté également. Donc, faire de la prévention à ce niveau-là, faire également de l'éducation au niveau des mets pré-préparés. Tu sais, c'est pas parce que, par exemple, un mets qui va avoir une étiquette, ça va être écrit santé, sans gras trans, avec des légumes, que c'est nécessairement bon pour la santé.
Oui.
Puis, c'est sûr que l'éducation nutritionnelle, en terminant juste par des nutritionnistes, ça, c'est super important aussi. Ça a vraiment sa place, puis c'est une bonne façon là, de faire de la prévention dans les saines habitudes de vie des immigrants.
Et pour vous, Marianne Lefebvre, et je trouve que c'est important de le dire, vous dites qu'il faut accorder de l'importance, il faut se préoccuper de la santé des immigrants ici au Canada, parce que souvent les problèmes, ils ne sont pas là dès la première année, ils vont ressurgir après 2, 3, 4 ans même, et ça peut amener des coûts énormes, que ce soit, oui, économique, mais d'autres coûts à notre société si on n'en prend pas soin.
Oui, totalement. En fait, ça fait partie d'un des critères pour émigrer au Canada que d'avoir une bonne santé globale. Donc, effectivement, c'est pas tellement à l'arrivée la problématique, mais c'est vraiment parce que quand les nouveaux arrivants arrivent au Canada, ils ont plusieurs formations, hein, que ce soit au niveau du logement, de la recherche d'emploi, etc. Mais il y a très, très peu de formation qui est donnée en matière de santé, que ce soit pour avoir accès à un médecin, que ce soit aussi avoir accès à différents professionnels de la santé comme des nutritionnistes. Donc oui, je pense que c'est vraiment super important de faire de la prévention puis de l'éducation nutritionnelle, et ce, dès la première année que les gens arrivent ici.
Oui. Si l'un de vos clients vous dit « Ah, il y a une épicerie mexicaine ou il y a une épicerie indienne au coin de la rue et j'y vais, ça me ramène des souvenirs, je me sens chez moi », est-ce que vous proposez davantage de s'intégrer ou d'y aller justement pour continuer ce sentiment de bien-être, de mieux-être?
Ben non. Moi, en fait, c'est important de savoir, si je me fais souvent poser la question. Mon objectif, c'est pas de dire aux gens ah, c'est important, tu sais, délaissez comment vous mangez dans votre pays, adaptez-vous, mangez comme ici. Ben non, vraiment pas. Tu sais, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des bonnes choses dans toutes les cultures alimentaires. Tu sais, puis quand on change de pays, on délaisse tellement de choses. L'alimentation, c'est quelque chose que les gens apportent avec eux, donc c'est quelque chose en général qui prend énormément de valeur. Donc non. C'est important, on garde la façon que les gens, la façon que les gens mangeaient chez eux, mais on change des petites choses à la fois. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, comme par exemple, il y a certaines cultures qui vont avoir l'habitude de cuisiner, je sais pas moi, des mijotés, des mets en sauce avec énormément d'huile. Si vous marchez 5 km par jour pour aller travailler, c'est pas grave comment on met de l'huile parce que vous le dépensez dans la journée. Ouais. Quand vous arrivez à Montréal, vous pouvez conserver la même recette, mais peut-être diminuer la quantité d'huile, étant donné que vous faites plus 5 km pour aller au travail, mais vous prenez le métro pour y aller. Comprenez-vous, c'est vraiment des petits changements comme ça qui sont importants.
Différence sur notre santé. Marianne Lefebvre, vous êtes nutritionniste spécialisée en nutrition internationale, présidente d'Intégration Nutrition, inutrition.ca. On retrouvera l'adresse de votre site web sur le nôtre. Merci, Marianne.
Merci à vous.
Bye-bye.
Bonne journée, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Georges Beauséjour, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, chef professionnel du service de psychologie du CHU Sainte-Justine. On parle aujourd'hui avec vous de l'impact d'avoir un frère ou une sœur handicapée au sein de notre famille, donc l'impact sur la fratrie. Tout à l'heure, Georges, je parlais de Sochi 2014 lorsque... le skieur Alexandre Bilodeau est allé littéralement rejoindre son frère qui vit avec la paralysie cérébrale. Un exemple assez probant qu'avoir un frère ou une sœur handicapée, ça peut être une grande richesse dans la vie.
Oui, tout à fait. Je pense que il y a les deux. Avoir un frère et une sœur handicapée, c'est une richesse et ça peut apporter beaucoup au niveau du développement de la personnalité de ces frères et sœurs-là. Mm-hmm. Dans le sens que la richesse, c'est aussi de pouvoir vivre une expérience quand même assez différente et de voir comment eux peuvent s'investir dans cette relation frère et sœur, même si on se dit que ce frère-là ou cette sœur-là est différente. Par contre, il y a aussi des enjeux quand même particuliers reliés au fait que le frère ou la sœur présente un handicap aussi.
Oui.
Et je pense qu'on devrait aussi être spécifique dès le départ aussi. Il s'agit de bien savoir de quel handicap s'agit-il. Est-ce que c'est un handicap léger? Est-ce que c'est un handicap moyen ou un handicap sévère? Et ça, c'est d'une grande importance pour, l'implication des parents et, la vie familiale en général.
Oui. Avoir un frère ou une sœur handicapée, Georges Beauséjour, j'imagine que ça amène un mélange d'émotions, de la honte, de la peur. Qu'est-ce qu'un enfant peut ressentir?
Spontanément, il peut ressentir toute cette gamme d'émotions. Et en même temps, ce que je souhaiterais préciser aussi, c'est que, les émotions qu'on peut retrouver chez la fratrie sont en quelque part guidées par les émotions que les parents vont dégager eux-mêmes.
Mm-hmm.
Les parents ont évidemment encore là un rôle central, c'est-à-dire comment eux vont se positionner par rapport à l'arrivée d'un enfant handicapé. Bien souvent, et on pourrait dire tout le temps, les parents ne souhaitent pas et ne s'attendent pas à avoir un enfant handicapé. Mais quand la réalité est telle, alors là, il s'agit de voir comment et la mère et le père vont réagir à cet ajustement, parce que effectivement, il faut être prudent dans les mots. Est-ce que c'est un ajustement? Est-ce que c'est une acceptation? Est-ce que c'est mieux composer ou savoir comment composer avec un enfant différent? Moi, j'accorde beaucoup d'importance au terme, mais il reste quand même que l'arrivée de cet enfant va provoquer des réactions qui sont tout à fait légitimes, comme ne serait-ce qu'un choc, ne serait-ce qu'une déception, ne serait-ce qu'une tristesse ou beaucoup de colère. On a toute la palette d'émotions qui peut se présenter, surtout à l'arrivée. Par la suite, évidemment, là, il peut y avoir des différences ou non avec le comportement de la mère ou du père par rapport à l'enfant handicapé. Bien souvent, on pourrait dire même que la mère peut présenter ou se mobiliser, je dirais, beaucoup plus massivement que le père dans toutes sortes de soins à apporter à l'enfant. C'est un cas plus classique, mais en même temps, ça peut se produire aussi à l'inverse, que pour d'autres raisons, pour différentes raisons, le père va investir plus que la mère, mais évidemment, ça dépend toujours là, de l'histoire de la famille.
On jongle comment avec et les besoins de l'enfant handicapé et les besoins des autres membres de la fratrie?
Je dirais que c'est la question et c'est une question qui m'a beaucoup préoccupée justement dans ma recherche de doctorat, à savoir comment on peut en arriver à ultimement à un certain équilibre. Et je pèse mes mots sur certains équilibres. Parce que, évidemment, quand je disais tantôt, si un enfant présente un handicap assez majeur, assez sévère, On s'attend à ce que les parents, comme je disais tantôt, le ou les parents doivent se mobiliser, soit pour des soins physiques, soit pour des consultations à répétition chez les différents spécialistes, soit pour les déplacements, etc. Donc, c'est sûr que plus le handicap est sévère, plus s'impose, je dirais, un investissement des parents auprès de l'enfant, et plus, je dirais, on pourrait penser que ça peut interférer sur l'équilibre familial.
Oui. Avoir un frère ou une sœur handicapée, on le dit, ça engendre une panoplie d'émotions, oui. Mais aussi des actions qui peuvent parfois laisser à interprétation. Je pense à un enfant qui voudrait un peu s'effacer, qui s'engage dans des activités à l'extérieur. Il faut s'interroger à savoir est-ce que l'enfant le fait vraiment par plaisir ou c'est pour peut-être enlever un peu de pression sur les parents.
Oui. Ben en fait, oui, ce que vous décrivez, c'est c'est comme une réaction que j'ai d'ailleurs rencontrée dans certaines familles au moment de ma pratique auprès d'enfants handicapés et de la fratrie. Oui, il peut y avoir des enfants qui, tout à coup, ben peut-être pas tout à coup justement, mais qui, au fil du temps, réalise à quel point les besoins du frère et de la sœur sont grands. Alors, justement, eux vont démontrer qu'ils sont grands, mais grands dans le sens autonome, et qui vont, je dirais, vraiment prendre ou donner une image de maturité ou de plus grande maturité qu'en réel pour dégager les parents, comme vous le dites. Et ça, je pense qu'il faut avoir l'œil ouvert, comme on dit aussi, oui. À savoir est-ce que c'est si légitime que ça d'être autonome, de vouloir justement trouver toutes sortes d'activités en dehors du milieu familial à un certain âge, oui, puis à un autre, moins. Oui. Alors ça, moi, j'encourage les parents à vraiment être attentifs de ce côté-là, oui.
J'ai l'impression...
Excusez-moi.
Oui, allez-y.
Si je pourrais ajouter aussi. Mais comme on peut se... Il faut le dire, il y a vraiment... On peut rencontrer différentes réactions. Il y a aussi, vous me faites penser, il peut y avoir aussi des enfants qui décident, pour différentes raisons, de s'investir énormément dans les études. Alors, ils vont performer, ils vont avoir des résultats extrêmement spectaculaires. Et là aussi, des fois, les parents, sans s'en rendre compte, vont être effectivement très positifs et tout ça, mais vont penser que c'est vraiment le potentiel de l'enfant. Ils en sont très heureux. Mais derrière ça peut se cacher aussi une volonté soit d'attirer l'attention encore plus, ouais. Dégager les parents en disant « Non, moi, je suis capable de faire mes devoirs, j'ai pas besoin de support. » Donc, il peut y avoir différents objectifs derrière une ultra-performance. Ouais.
Différents cas. Bon, d'autres enfants développeront des problèmes de comportement. Tout ça peut-être dans le but d'attirer l'attention de l'enfant. Ce que j'ai l'impression, Georges Beauséjour, c'est qu'il y a la discussion, la communication qui demeure importante avec notre enfant, de lui demander peut-être assez clairement « Mais comment tu te sens? Est-ce que tu vis bien avec le fait d'avoir un frère ou une sœur handicapée? » On peut aller jusque-là avec notre enfant.
Oui, tout à fait. Et vous venez de dire un mot crucial, d'informer, discuter, communiquer. Moi, je vous dirais, c'est la clé dès le départ. Parce que informer l'enfant, d'abord et avant tout, qu'est-ce que son frère ou sa sœur a comme difficulté? Comment se fait-il que lui a cette difficulté-là et non l'autre enfant à côté? Bien souvent, même dès le départ, les enfants se sentent un peu perdus sur en train de voir que tout à coup, il y a un enfant qui arrive handicapé dans la famille et que lui est surtout pas handicapé. Il y a des multiples questions qui peuvent se poser et qu'on soupçonne même pas du style, est-ce que ce handicap-là peut s'attraper, par exemple? Mm-hmm. Est-ce que moi, ça peut m'arriver? Et comment se fait-il que je ne l'ai pas maintenant? Et est-ce que ça va arriver plus tard. Bon, donc, information, je dirais, évidemment, au niveau de l'âge de l'enfant, là, il faut s'ajuster, mais il faut, je dirais, par petite dose, donner l'information, communiquer avec les enfants. Et moi, je dirais aussi, voire même, que les parents se permettent jusqu'à un certain point aussi d'exprimer certaines émotions que eux peuvent avoir pour démontrer qu'on peut parler des émotions, qu'on peut vivre des émotions.
Ouais, et qu'on peut exprimer nos limites aussi, hein, parce qu'il y en a.
Oui, tout à fait, effectivement, parce que, oui, vous me faites réaliser un autre aspect. Souvent, des parents vont presque devenir épuisés au bout complètement, mais devant leur enfant non handicapé, vont faire des efforts assez importants pour camoufler leur fatigue, camoufler leur tristesse ou camoufler leur colère par rapport à tout ça. Mais je ne dis pas qu'il faut que les parents étalent au grand jour toutes ces émotions à tous les jours, là, mais je pense qu'il faut leur permettre d'en exprimer et ça pourrait avoir comme impact que les enfants aussi vont en exprimer. Ouais. Le grand danger, c'est que si tout le monde se censure, les parents, les enfants, alors là, moi je dirais, c'est là que ça m'inquiète le plus dans les familles.
Oui. Le temps file malheureusement tellement de choses importantes à aborder ensemble, Georges, beau séjour, mais je pense et j'aimerais que l'on se quitte là-dessus. Si les parents sont le baromètre de la famille, il faut qu'ils apprennent à prendre du temps pour eux pour se reposer.
Tout à fait. Et là aussi, c'est un enjeu de taille parce que autant il faut les amener à reconnaître leurs limites. Et souvent, les parents, par compassion, par générosité, c'est peut-être une des choses les plus difficiles, c'est de dire, bon, est-ce que moi, je peux me permettre pour un temps limité, encadré, que quelqu'un d'autre prenne le relais?
Voilà.
Et là aussi, moi, je vous dirais jusqu'à quel point l'importance, je dirais, de la famille élargie. Parce que bien souvent, les parents vont dire, non, c'est moi là, le spécialiste, j'ai vu tous les spécialistes et je n'oserais pas laisser quelqu'un d'autre, je dirais, aider mon enfant. C'est moi qui connais les bons moyens ou les bonnes façons. Alors donc, ils se donnent, je dirais, une grande responsabilité.
Ouais.
Et à ce moment-là, c'est le grand risque, c'est qu'ils vont aller vers l'épuisement.
L'épuisement et un parent fatigué et malheureux engendre bien sûr une famille et des enfants moins bien. Georges Beauséjour, vous êtes psychologue, chef professionnel du service de psychologie du CHU Sainte-Justine. C'était tellement intéressant de vous parler. J'espère avoir la chance de le refaire bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Et bienvenue.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se retrouve demain. Bye bye.